marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Alors je vais appeler nos ingénieurs du Centre d'exploration du temps. Allô, au Centre d'exploration du temps, me recevez-vous ?
Aujourd'hui, Jean Mallory, venu du fond des temps.
Les Inuits sont proches du pôle. Une des caractéristiques de ce peuple, qui je me permets de rappeler, a 5000 ans, et vient du nord de la Chine, a pérégriné à travers l'Alaska, le Canada, et est à Thulé. C'est pas un lieu quelconque. C'est l'espace le plus au nord du monde.
On connaît Jean Mallory, la scène fondatrice, 1951, il est en exploration. Pauvre et solitaire à Thulé, sur la côte nord-ouest du Groenland. Nous sommes en pleine guerre froide, la base américaine s'agrandit. Un général signifie à Mallory qu'il est en territoire américain, militaire, strictement interdit. Et Mallory répond, et vous mon général, qui vous autorise à être sur un territoire inuit? Même si tous vous obéissent, moi non. Jean Mallory a beaucoup appris chez les Inuits. Il admire chez eux l'égalité, chez eux aussi l'attention sensitive aux lois de la nature et l'adaptation en souplesse à leur évolution. On ne parle plus à leur sujet de peuple premier, ce sont des peuples pionniers, dit-il, dans la conscience écologique, même s'ils sont des pions dans les stratégies de puissance que déploient dans l'article les peuples dominants. Il faut oser résister, même si tous, moi, non.
La marche de l'histoire sur France Inter.
Avant de bonjourer Jean Mallory, enfin je le fais quand même, bonjour Jean Mallory, juste deux, trois choses. Vous avez la chance d'une longue vie et donc vous intervenez de toute manière. Un petit volume au CNRS, Osez résister, j'en ai repris le titre. Vos œuvres scientifiques, le premier volume Arctica est paru et toujours aux presses du CNRS, on attend la suite. Bientôt vos mémoires et puis alors des interventions plus courtes, je voudrais insister sur l'une d'entre elles, c'est le grand article conclusif de l'Atlas des peuples qui est en kiosque dorénavant sous l'égide de la vie et sous l'égide du monde, une exploration à 360 degrés des peuples les plus divers, des Grecs et des Perses de l'Antiquité, aux Nigérians ou aux Éthiopiens qui tentent de se fédérer en passant par les Ouïghours persécutés. Mais on va d'abord raconter comment, avant d'arriver chez les Inuits, vous avez réfléchi sur la pierre. Parce que vous êtes un spécialiste de la géomorphologie.
Je dirais même de la géocryologie.
Ah.
Bon, commençons au point de départ, qu'est la résistance. Alors que est décrété le funeste décret de Sauckel sur le STO. Pour moi, c'était impossible. C'est hors de question pour moi. Donc, a commencé une vie différente et à la fin de la guerre, je me suis posé une question, qu'est-ce que je fais ? Et ma voie, je l'ai découverte dans le Muséum d'Histoire Naturelle en regardant au microscope des pierres. Dans une coupe, j'ai vu des circonvolutions, c'est complexe, c'est le quartz, c'est les minéraux, c'est l'origine du monde. Donc, c'est une réponse à la question. Et j'avais le sentiment, ayant compris l'indignité de toute cette orientation, soumission de l'Occident et de l'Europe à un régime effroyable, ce régime nazi, qu'il fallait procéder à une nouvelle éducation chez les primitifs.
Et c'est ainsi que vous partez d'abord dans des expéditions qui sont organisées par les expéditions polaires françaises et que, ensuite, c'est votre goût. Vous vous retrouvez dans la solitude et la pauvreté au Groenland en 1951.
Nous faisons route vers le nord. Le Force a tourné son état vers le Groenland. Un désert de glace de 2000 km de long, de 800 km de large, de 3000 mètres d'altitude, où l'hiver, le thermomètre marque moins 60 degrés, un des lieux les moins connus du monde. Toujours le vent, de longues journées passées à attendre.
Et au Groenland, les pierres qui parlent peut-être, et les animaux qui se pressent sur votre flanc.
J'ai eu pour maître Emmanuel de Marton. C'est grand le fondateur géographe de la géographie moderne. C'est lui qui m'a tourné, qui m'a invité à me rendre comme géographe physicien au Groenland. De Marton nous enseignait la précision. La géographie générale, s'il vous plaît, c'est pas simplement l'érosion, la pénéplanation, un discours académique. Non. C'est aller plus loin. Donc, d'essayer de comprendre dans la pierre ce qui fait qu'elle a des vertus. Il y a des silices, il y a des calcaires, il y a des clés. Bref, comprendre. Et j'ai été géographe physicien d'une très grande expédition de glaciologie sur le glacier du Groenland. Et j'ai appris une certaine réserve devant les sciences dures. C'était des géophysiciens, des climatologues, qui, parce qu'ils ont des appareils et des chiffres, croient penser. Et dans l'expédition, il y avait un lépidoptériste, c'est-à-dire un chasseur de papillons, qui était en petite culotte avec son filet, qui faisait l'objet de sarcasmes. Et souvent, il venait dans ma tente en me disant « j'en peux plus ». On le prenait pour un Tintin. Mais ben non. C'est peut-être celui qui a fait la découverte la plus extraordinaire. C'est-à-dire que non seulement les papillons posent des problèmes dans l'Arctique groenlandais, mais il a mis en valeur que le colimbole, qui est un petit insecte, a pu vivre sous le glacier pendant 3 millions d'années. Donc quand on invoque les temps malheureux que nos descendants peut-être connaîtront, non, l'homme a une force de vie. Et le colimbole, ainsi, a traversé 3 millions d'années. Donc, peu à peu, je me suis attaché à l'étude de ces pierres et à l'étude du gel. Ce gel est évidemment dominant dans ces régions. Il est tel que, en effet, il fait éclater les pierres. Mais comment ? C'est un outil qui fonctionne différemment en surface des pierres, c'est une desquamation. Et à l'intérieur, c'est tout à fait différent. Tout à fait différent parce que du fait que l'eau, en toute petite substance, dans des canalicules, subit des pressions très grandes, ce qui fait que sa structure moléculaire est différente. Et cette eau, ce liquide gazeux, qui est ainsi dans ces canalicules, ne gèle qu'à plus 40. Donc, en surface, les desquamations, c'est moins 5 ou 0. Et il y a donc des échanges électromagnétiques. C'est un bruit. Et je l'ai recherché, ce qui fait que les Inuits disaient « Ularak, una krashluna orarpok ». Il parle avec les pierres. C'est mon surnom.
Les Inuits sont implacables avec vous en même temps. Heureusement, les chiens sont à vos côtés.
Oui, j'ai voulu, dans l'Arctique, après avoir connu l'exploration coloniale chez les Touaregs, dépasser cette approche détestable. Et je suis sous l'autorité de Simone Veil, qui m'a beaucoup impressionné dans son œuvre, notamment quand elle était ouvrière en 34 chez Alstom et chez Renault. Elle considérait qu'on ne peut connaître l'autre qu'en étant seul et en immersion. Ce qui fait que je suis parti avec une prémonition, ce que j'appelle une préscience. Il y a une préscience animée, une préscience sauvage qui m'habite et qui fait que j'ai voulu, quand j'ai reçu mon ordre de mission, partir un an avant la date de l'ordre de mission. Mission, je l'ai faite en 50-51. Or, l'ordre de mission CNRS, 51, 52. Si j'étais venu en 51, 52, le malheur était là, les Américains étaient déjà sur place. Je n'aurais jamais vécu dans une société primitive. Donc en 50, 51, je suis sans crédit. Le Seigneur n'a pas donné ses crédits. Sans matériel, seul, absolument seul. C'est ce qui m'a sauvé. Et ça a été une immersion difficile. J'ai eu 3 mois très, très cruels. Et dans mes mémoires, c'est pas une dépression du tout. Je ne veux pas du tout revenir dans le Sud. Les Inuits me méprisent. Mais qu'est-ce que c'est que cet homme qui ne sait pas ce qu'il veut? Et pourtant, quand je suis arrivé sur la plage, un homme était là. C'est un grand chaman. Outak. Je t'attendais. Donc, cet homme va donner des instructions à son fils Gutiketok. Vous connaissez mon fils. Je me permets de vous rappeler.
Enfin, moi, je le connais sous le nom de Guillaume.
Malheureux s'appelle Gutiketok. C'est pas n'importe quoi un nom esquimau. Ça a des pouvoirs. Bref, ce Gutiketok sera mon compagnon. Sa photographie est celle de la couverture des derniers rois de Thulé. Il a des lunettes d'os. Et donc, je vis ce que j'appelle le Géborun, un noir, une descente qui pourrait être aux enfers. Non, je suis en train d'être enceinte de moi-même, le vrai Jean Mallory, que je ne connaissais pas. Et les Inuits me l'ont dit, tu es jeune, j'avais pourtant 28 ans. J'avais fait de la résistance, j'avais été compagnon des expéditions polaires. Non, les Inuits m'avaient dit, tu n'es pas encore un homme complet, on va te l'apprendre. Et c'est ainsi que, au cours de ces 3 mois, ce Mallory inconnu, paléolithique, a dû faire un voyage initiatique que je ne comprends toujours pas. J'étais seul, j'avais à rejoindre, de par ma volonté, un sage qui était à 150 kilomètres. C'est la nuit, il fait moins 30, moins 20, moins 30, et j'ai mes chiens. J'ai un traîneau, je n'ai jamais conduit un traîneau de 4 mètres, des chiens qui sont à 7 mètres, et qui sont de vrais animaux sauvages. Et étrangement, je vais être adopté par papa. Papa va être mon maître, deuxième chaman. Il a tout compris. Le chien a été pour moi, ce leader, a été incontestablement mon compagnon le plus intime. Ceci va si vrai que lorsque par la suite, la chienne, il y a toujours une chienne, dans un attache j'avais 12 chiens, et qui comprenait, je ne parlais que la langue esquimaude. On ne marche pas au fouet, nous ne sommes pas au cirque. C'est pas la parole. Une relation. Et cette chienne, Picouli, a eu quelques shows, une dizaine de shows. Nous sommes au printemps. Je suis maintenant intégré au groupe. Or, ces shows, elle est venue sous ma tente, elle les a mis contre moi, et elle s'est couchée réellement comme une épouse, la patte sur mon bas-ventre. Et papa, qui était dehors, assistait à cette manifestation, comme si j'étais le père de ces choux. Vous savez, les Inuits ont relation avec l'animal qui est essentiel. Et ceci est dans les mythes, un des mythes clés, qui est transmis depuis 4000 ans. Je me permets de dire qu'ils ne savent pas lire et écrire, ils n'ont aucun texte, et de génération en génération depuis 4000 ans, ces peuples ont retenu 200 légendes, Okraluktuara. Et dans une de ces légendes, un chien, saute, une femelle, plus ou moins humaine, c'est ainsi qu'est né l'homme, le chien, et le père des hommes.
Un peuple, vous le rappelez dans l'Atlas des peuples qui vient de paraître, La vie, le monde, c'est un territoire, c'est une langue, ce sont des mythes. Votre travail, on ne peut le raconter, Jean Mallory, au long des quelques 31 expéditions que vous avez faites en territoire inuit, vous avez beaucoup enregistré, vous avez aussi beaucoup filmé. Ceci, c'est un vieux disque Okora 1988, signé Jean Mallory. Nous sommes du côté du détroit de Bering.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Jean Mallory toujours, Jean Mallory ici vu par Philippe Torreton.
Il a voulu enregistrer la voix d'un chef de tribu, et puis donc il lui montre l'appareil, et puis il enregistre sa voix, et puis il lui fait écouter, comme pour lui montrer qu'il n'y a pas de magie, il lui fait écouter sa voix après. Et l'Inuit part dans une colère folle en disant « mais c'est réducteur, ils se sont trahis ». Et lui dit « mais non, ce sont les mots vraiment que vous avez prononcés ». Il dit « non, votre appareil ne prend pas en compte le regard des gens qui m'écoutaient, mon regard à moi, le bruit du vent derrière, les mouvements de bouche des gens, etc. » Je vivais une scène extraordinaire. Parler pour un Inuit, c'est d'abord enseigner. Et la ponctuation du verbe n'est que partielle. Les yeux, les mains, le mouvement du torse, les lèvres du narrateur, les contractions de la mâchoire, le regard de ceux qui l'écoutent et qui co-signent ou non la déclaration, le seul enregistrement est mensonger parce que fragmentaire. Pour l'Inuit, le témoignage est un théâtre. Le contre-regard parle en silence. L'observateur est une partie de l'observé. Et le narrateur est fonction de l'auditoire, faire vivre ce qui est au-delà du mot, c'est-à-dire l'ombre portée par les syllabes.
On ne sait que citer de vous, Jean Mallory. Ceci est extrait de la lettre à un jeune Inuit de 2022 que vous avez publié il y a quelques années. Donc on fait une mauvaise émission là, parce que il manque à l'auditeur le regard, l'observation de votre position, accoudé sur la table du studio.
Les Inuits ont été trop longtemps mal compris. L'exploration était assurée avec un esprit colonial. C'était des grands navires, des officiers de marine, qui allaient voir de temps à autre dans les igloos ces hommes qu'on appelait des pauvres gens, naturellement peu formés. Et une série d'idées fausses se sont peu à peu répandues. Vous savez, c'est très fâcheux dans l'histoire d'un peuple que la première connotation soit mensongère. Elle lui colle à la peau. Donc, l'anthropologie en a souffert et continue à souffrir. Et puis, par la suite, permettez-moi de donner un coup de patte à ce qui est devenu ce qu'on appelle les sciences sociales, ça me fait sourire. C'est pas des sciences. C'est une exploration difficultueuse. Le moindre couple sait très bien la difficulté de communiquer l'un avec l'autre. Il suffit d'aller à une réunion de divorce. Mais tu ne m'as jamais compris. Et il y a de ça 20 ans que tu ne m'as pas entendu. Enfin, c'est un peu comme ça avec ces peuples. Donc, ce que l'on a manqué, et Lucien Febvre, qui m'a fait rentrer aux études en sciences sociales, et m'a confié ensuite à Fernand Braudel, qui est devenu maître et ami, m'a demandé de faire dialoguer les historiens, les psychologues et les philosophes avec la géographie physique. Ça, c'était la volonté de Lucien Febvre. J'ai essayé de faire des comités pour qu'on parle ensemble. Je ne suis pas arrivé à ce dialogue. Brodel m'a souvent expliqué, Jean Mallory, vous voulez que je les oblige à parler entre eux, mais ils ne s'aiment pas. Pire, ils se détestent. Alors, ça ne peut pas fonctionner comme cela. Et donc, il y a là une réforme à faire, profonde. C'est en quelque sorte un remue-ménage dans l'esprit, d'écouter pour comprendre l'autre.
Vous avez provoqué un certain remue-ménage en fondant une académie polaire à Saint-Pétersbourg qui formait de jeunes étudiants venus de tous les peuples
qui
inuits.
Qui continuent à les former.
Qui continuent à les former et que Jacques Chirac, que vous ne détestez pas, a visité en 2003.
Dès son arrivée à Saint-Pétersbourg, le président Chirac a filé à l'Académie polaire, cette université ouverte aux jeunes qui appartiennent aux ethnies du Grand Nord. 48 peuples que Jacques Chirac a voulu ici saluer. Et le président d'honneur de l'Académie polaire, le professeur Jean Mallory, en a profité pour lui faire un curieux présent.
Je vais me permettre de vous apporter cette queue de cheval, un cheval mâle du nord de la Sibérie, pour permettre au président de la République française, en union avec la Russie, d'éloigner les mauvais esprits.
Merci pour ce superbe souvenir que j'emporterai.
Saint-Pétersbourg, Luc Lemonnier, France Inter.
Les mauvais esprits sont peut-être les intentions des grandes puissances qui veulent utiliser ces peuples arctiques en pions.
Si vous me permettez, j'envoie à Jacques Chirac l'expression de ma pensée très fidèle.
Puisque vous parlez de la France sans cesse maintenant, Jean Mallory, j'aimerais que vous le racontiez ce que diable vous faites à Dieppe une bonne partie de l'année. Parce que on vous voit parfois photographié peignant.
À Dieppe, je cherche à retrouver cette nuit arctique. Et c'est la raison pour laquelle j'habite face à la mer. Et j'ai mon vélin. Et ces vélins, ces pastels vont paraître. Un éditeur va publier mes 40 pastels de la nuit polaire. Et il se trouve que dans l'Arctique, in Groenlandais avec mes chiens, il y a des moments où ceux-ci comprennent que celui qui est sur ce traîneau, c'est-à-dire moi, et je pense aux chiens, va connaître un moment particulier. Donc ils s'arrêtent. Ils se mettent en position assise, les oreilles pointées vers le ciel. Et ils ne bougent plus. Et papa, notamment, me facilite ce que on cherche dans une prière, au raret, une lévitation, une montée. Il fait moins 30, c'est une nuit polaire absolue. Je ressens la mer glacée dans son mouvement. C'est la pulsation de la terre. Mais mon esprit, mon âme va vers ces grandes zones d'ombre. Pour les Inuits, c'est des limbes des morts. C'est peut-être ce qui m'est réservé. Je tiens à vous dire que je serai enterré au Groenland. C'est ce qu'ils ont voulu et ce que je profondément souhaite. Car il y a une sorte d'immortalité dans ce monde et il y a un état zen, un état taoïste qui m'habite et qui me permet d'aller plus loin. C'est ce qui fait que j'ai répondu à leur attente lorsqu'avec une craie, j'ai, sur un vélin, commencé à représenter cette nuit. C'est un combat avec le noir. C'est pas le noir de Soulages, c'est un autre noir de la nuit polaire, qui est une nuit qui n'est pas mystique, qui est une nuit habitée. Une autre précision. Je suis à Tulé. C'est pas un lieu quelconque. C'est l'espace le plus au nord du monde, habité par le peuple le plus au nord, les Inuksuit. Et ces Inuksuit sont proches du pôle. Vous savez, je suis le premier homme à être allé au pôle géomagnétique. Parce que je le pressentais au cours de ma exploration cartographique, qu'il était là quelque part. Et ce pôle, il y a trois pôles. Le pôle géographique, qui ne bouge pas, 90 degrés. Le pôle magnétique, qui lui est quelque part dans le nord canadien et qui se déplace vers le nord. Et le pôle géomagnétique, qui a été découvert par le grand physicien allemand Friedrich Gauss, qui traverse de part en part la tropopause, va jusqu'en dans l'Antarctique. Il se trouve que ces trois pôles habitent ces Inuits. Alors, je vous dis tout cela pour jeter mon opprobre une fois de plus aux forces américaines qui ont été, de façon honteuse, occupées la région sacrée de Tulé pour constituer une base offensive américaine que, au titre de la défense de l'Occident. Les Inuits n'ont rien à voir dans ce combat et je suis pour l'indépendance du Groenland.
Tous les peuples ont le droit à l'existence, même les plus modestes, c'est réaffirmé tout au long de la classe des peuples, Jean Mallory, auquel vous avez participé. Je voudrais quand même que vous finissiez en évoquant cette devise que vous citez au début d'une autre de vos publications, « Osez résister ». Même si tous, moi non.
Et siam, si omnes, ego non. Alors, même si tous, je l'ai prononcé cette phrase à Strasbourg. Je suis, on m'a nommé citoyen d'honneur de la ville de Strasbourg. Même si tous, je suis libre. Je suis libre, de même que il était insupportable pour moi qu'un maréchal de France oblige des jeunes Français à participer dans une collaboration franco-allemande. Non, je crois que le sens des droits de l'homme et du citoyen, c'est pas seulement le citoyen, de l'homme. Un homme est responsable de son action. Vous savez, j'aurais terminé cette émission, chaque homme est un mystère. Chaque homme a un infini. Et c'est vrai pour chaque peuple. C'est l'honneur de la France. C'est droits de l'homme et du citoyen. Et il y a là des mystères, c'est la raison pour laquelle, à l'UNESCO, je me bats pour les peuples autochtones, car je ne dirais pas qu'il y a un dieu, je suis comme les Inuits, je ne dis pas un dieu, un principe créateur. Enfin, il y a bien eu un début où les acides, l'eau, ont été rassemblés dans cette marée noire des débuts de l'histoire du monde. Qui a fait venir ce que j'appelle Uma, l'énergie? Et il y a cette énergie, dans quel but? Pourquoi ce destin humain? Et il y a là un mystère, et donc c'est dans ce sens que je lance un appel à la jeunesse pour que elle soit en mesure de subir ces consonances avec cette nature, car c'est le grand livre. Nous sommes naturels et cette nature a ce mystère. Quel est son destin? Il faut le lire, le découvrir.
Merci à vous, Jean Mallory. Osez résister, la classe des peuples. Bientôt, vos mémoires de la pierre à l'âme. L'émission était préparée par Frédéric Martin, Linka Negulesco, Franck Olivard. À la réalisation, Audrey Ripouille et la technique, Tiffany Battistel.